Radio Okapi. Journal présenté par Grace Amzati.
À la une, Corneille Nanga et ses collaborateurs condamnés à la peine de mort pour notamment crimes de guerre et sommés de payer une amende d'$1 milliard à la République. C'est en tout cas le verdict rendu ce jeudi par la cour militaire de Kinshasa Gombe. Les condamnés ont 5 jours pour interjeter appel. Nous en parlons dans quelques instants avec Jeff Ngoy. Lancement ce jeudi par le vice-gouverneur de la Tchopo de la troisième phase de la campagne de vaccination des enfants contre l'épidémie de la poliomyélite. Cette campagne se déroule dans les 23 zones de santé de cette province et concerne les enfants de 0 à 59 mois. Notre invité est le bourgmestre de la commune de Barumbu ici à Kinshasa. Christophe Lomami parle notamment de la question de l'insécurité due au phénomène Kuluna dans cette municipalité et demande plus de moyens de la locomotion aux autorités urbaines pour résoudre ces problèmes. Bonjour à tous. Peine de mort, arrestation immédiate des prévenus, défaillants, confiscation de tous leurs biens, sous-séquestre et paiement d'une amende d'$1 milliard à la République pour le préjudice subi. Ce sont là les sanctions pénales infligées à Corneille Nanga et consorts par la cour militaire de Kinshasa Gombe à son audience publique de ce jeudi à la prison militaire d'Ndolo. 5 des 26 prévenus présents ont été reconnus coupables de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel. Nanga et ses compagnons en fuite ont été reconnus coupables des crimes de guerre et des 2 préventions à charge des prévenus en détention sauf la trahison pour les étrangers. Ils ont 5 jours pour interjeter appel contre cette condamnation. Jeff Ngoy.
C'est un motif de joie et de fierté pour la justice militaire qui a su juger ses prévenus en un temps record d'après le ministre de la Justice. Mais à quel moment va-t-on assister à l'exécution d'anciens condamnés à mort en attendant l'appel de ceux qui viennent d'être condamnés? Et par quel mécanisme les défaillants seront arrêtés? Constant Moutamba.
Nous allons veiller à l'application stricte de toutes les peines pour ceux qui se retrouvent en fuite, en l'occurrence M. Corneille Nanga et ses affidés. Nous allons lancer des mandats d'arrêt internationaux pour pouvoir les appréhender, coopérer avec certains pays.
La CNDH se déclare satisfaite du respect du droit de la défense tout au long du procès. Son président Paul Nsapo.
Les garanties des libertés fondamentales des droits de l'homme ainsi que le droit de la défense ont été respectées.
Pas contente, la défense annonce son appel. Maître Peter Ngomo.
C'est quand même une grande déception. Si vous avez suivi le procès, comment ça a commencé jusqu'au point où on en est arrivé ici.
Depuis la guerre d'agression en 2021, Bounagana, Boutare, Kazihiro, Tchengerero et tant d'autres localités du Nord Kivu sont le théâtre des viols, largages des bombes, pillages des ressources naturelles perpétrés par la branche armée de l'AFC, le M23 et le Rwanda avec la traîtrise des Congolais, selon la cour militaire qui motive ainsi la sentence.
Merci à vous, Jeff Ngoy. Et au sujet d'élections ce samedi des membres du bureau définitif du Sénat, la police met en garde toute personne non concernée par ces scrutins de ne pas s'approcher du palais du peuple qui sera très sécurisé. Cela pour parer à toute éventualité, déclare le commandant de la police de Kinshasa. Il a dit ce jeudi à l'occasion de la présentation de plus de 200 personnes présumées fauteurs de troubles lors des échauffourées au palais du peuple mardi en marge des dépôts de candidatures au Sénat. On écoute le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba dans cet extrait proposé par Alain Rung.
Le commissariat provincial profite de cette occasion pour demander aux Kinoises et Kinois, si vous n'êtes pas invités, de ne pas vous transporter ou vous amener à l'hémicycle du Palais du Peuple. Cet hémicycle est sécurisé et elle sera encore hautement sécurisée. Ne peut y arriver que la personne qui a une invitation ou la personne qui va aller voter ou le personnel administratif de l'hémicycle. Vous n'êtes pas concerné. Empêchez-vous de vous y rendre parce que vous pouvez croire que vous n'êtes pas identifié, mais désormais nous opérons avec des caméras de surveillance. Vous arrivez là-bas, on vous visualise, on va vous chercher partout, même chez vous à la maison. C'est comme ces gens, ici, on les a appréhendés chez eux après avoir fait leur déplacement de l'hémicycle.
Par ailleurs, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur des affaires humanitaires en RDC a rencontré ce jeudi à Lubumbashi le gouverneur du Haut-Katanga. Il était accompagné des responsables des agences du système des Nations Unies œuvrant dans la province. Au cours de cette rencontre, de nombreuses questions ont été évoquées comme l'indique Bruno Lemarquis au micro de Jean Gandou.
Le gouverneur nous a présenté sa vision pour la province, ses priorités du nouveau gouvernement, avec notamment l'emphase sur le secteur de l'énergie pour que le développement économique puisse se poursuivre, notamment dans les trois territoires où les ressources minières sont moins exploitées. Il nous a expliqué que du fait que c'est une province minière, beaucoup de jeunes préfèrent travailler dans les mines que dans le secteur agricole. Les agences des Nations Unies travaillent notamment sur la question des enfants qui travaillent dans les mines, comment prévenir ce phénomène, mais également comment faire en sorte que les enfants qui sortent des mines puissent soit continuer leur éducation, soit avoir une formation professionnelle. J'aimerais que cette formation professionnelle soit de plus en plus dirigée vers les secteurs agricoles, la pisciculture, l'élevage, etc. Donc c'est un point qui est très important et qu'on va discuter avec les agences spécialisées des Nations Unies dans l'agriculture. On a parlé aussi de la question des rapatriés et de la situation humanitaire qui prévaut dans la zone de Pueto. Un certain nombre de réfugiés qui ont été rapatriés dans cette zone. Donc, si je ne me trompe pas, c'est 11 000 personnes. Les Nations Unies sont très actives, évidemment. Le HCR, le PAM, l'UNICEF, UNFPA, pour apporter l'assistance à ces gens. Notre collaboration avec les autorités est cruciale dans ce domaine.
Santé à présent. Dans la Tchopo, le vice-gouverneur des provinces a lancé hier la troisième phase de la campagne de vaccination des enfants contre l'épidémie de la poliomyélite. Celle-ci est organisée avec l'appui des partenaires techniques et financiers du gouvernement, dont l'OMS, l'UNICEF, Gavi et autres. Elle se déroule dans les 23 zones de santé de la Tchopo du 8 au 10 août et cible les enfants âgés de 0 à 59 mois. Le point avec Jacques Mukonkoli.
Les enfants ciblés par cette campagne sont estimés à plus de 842 426 dans la Tchopo. 5 cas de type variant 2 y ont été enregistrés. Il n'existait pas de traitement curatif pour cette épidémie, si ce n'est que la vaccination, a révélé le représentant des partenaires financiers et techniques du gouvernement, le docteur Juvenal Mukuta.
La vaccination de routine avec les couvertures vaccinales élevées dans toutes les communautés, la surveillance de qualité des cas de paralysie flasque aiguë, l'organisation des campagnes de riposte de qualité en cas d'épidémie, la présente campagne s'inscrit dans l'une de ces stratégies.
La stratégie adoptée pour cette campagne est le porte-à-porte, a précisé le médecin chef de division provinciale de la santé, le docteur Bienvenu Ikomo Italo.
Les vaccinateurs, accompagnés de relais communautaires, passeront porte-à-porte pour administrer les deux groupes de vaccins oral de polio pour protéger tous les enfants de 0 à 59 mois contre cette maladie qui rend infime toute la vie.
En vue de sa réussite, le vice-gouverneur des provinces, Didier Lomoyo Iteko, sollicite l'implication et l'engagement de tout le monde, à savoir les parents, les leaders communautaires ainsi que les autorités. Jacques Mukonkoli, Kisangani, Radio Okapi.
En 2019, un tragique événement a secoué la ville de Beni au Nord Kivu. Des manifestants en protestation contre l'insécurité ont incendié la mairie et les bureaux de la poste locale. Si le bâtiment de la mairie a été reconstruit grâce au financement de la MONUSCO, celui de la poste est resté à l'abandon, dépourvu de toiture. Malgré cela, quelques agents continuent de travailler dans des conditions précaires. Radio Capi s'est penché sur la situation difficile de ces employés dévoués qui luttent pour maintenir un service postal dans une ville confrontée à de nombreux défis. Voici le reportage signé Martial Papimukeba.
La poste de Beni, autrefois vivante, n'est plus que l'ombre d'elle-même, pour ne pas dire un bureau en ruine. Les vestiges de l'incendie de 2019 témoignent de l'abandon avec un bâtiment sans toiture. Dans un bureau de fortune, quelques agents s'efforcent de maintenir un service. Les responsables Kasseri Kandaye expriment son désespoir.
Ce n'est pas aussi facile de perdre un bâtiment comme ça. Nous sommes en train d'utiliser un bureau provisoire à planche. Nous nous retrouvons dans une situation difficile à gérer.
Les conséquences sont sévères. Les clients, découragés par l'absence des services et les conditions précaires, ont presque entièrement déserté la poste, ajoute Kasseri Kandaï.
Nous avons des difficultés diverses. La diminution de la fréquentation de nos clients. Nous avons de la peine à gérer les correspondances qui nous viennent de l'extérieur parce que nous avions des boîtes postales sur le bâtiment qui nous permettaient de garder avec sécurité les correspondances. Mais pour le moment, nous n'en avons plus.
Malgré ces défis, les agents de la poste de Beni, résilients, continuent de travailler chaque jour. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Dans l'actualité, sachez aussi que plus de 80 km de routes de dessertes agricoles sont en pleine réhabilitation depuis bientôt un mois. dans les territoires de Kabeya-Kamwanga au Kasaï oriental et Bukonde dans les territoires de Dibaya au Kasaï central. Le ministre d'État en charge du développement rural s'est rendu lundi à Mupomba dans les territoires de Kabeya-Kamwanga pour s'enquérir de l'évolution de ces travaux effectués par une entreprise locale et supervisée par l'Office des voies des dessertes agricoles OVEDA. Des explications avec Esther Dalafina.
Sur les 82 km de route à réhabiliter, l'entreprise locale Joe Kasonga Mukuta Group a déjà entretenu près de 8 km et quelques points chauds. Les travaux ont débuté à Kenankuna, chef-lieu du territoire de Kabeya-Kamwanga. Les ingénieurs passeront par Mupompa jusqu'à Bunkonde dans le territoire de Dibaya au Kasaï central. La réhabilitation de cette route de desserte agricole est financée par le Bureau central de coordination BCCO. D'après le directeur provincial de l'OVEDA, Office des voies de dessertes agricoles OVDA, maître d'ouvrage, ces travaux de 6 mois consistent à l'évacuation des eaux de pluie par un système de drainage externe à l'ouverture de la route et à son rechargement avec des matériaux sélectionnés. Pour Marcel Kalala, la réhabilitation de cette route de dessertes agricoles va faciliter les échanges commerciaux des denrées agricoles et des produits manufacturés en provenance de Kinshasa vers Kananga au Kasaï central jusqu'à Bunkonde dans les territoires de Dibaya. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Bonne nouvelle pour les abonnés de la Société nationale d'électricité SNEL à Guadolite. Nous sommes dans la province du Nord-Ubangi, lesquels se plaignent fréquemment des cas d'arrêt de la centrale hydroélectrique de Mobaye Mbongo ou des dégradations de la desserte en électricité. Un premier lot de câbles et poteaux électriques ainsi que des cabines compactes vient d'arriver au port de Businga à 140 km de la ville. Ces matériels, financés par la Banque mondiale, serviront tant à l'extension qu'au renouvellement de l'ancien réseau électrique à Guadolite et ses environs. Le directeur des productions et transports de la SNEL Nord, Maurice Ewango, explique au micro de Paul-Richard Malengela.
Je confirme que le bateau qui a transporté le matériel électrique de la SNEL est bel et bien arrivé à Businga depuis le 2 août. Ce lot de matériel est composé de câbles, de poteaux, de cabines compactes avec les accessoires mais sans les transfos. Le transfo est en train d'être fabriqué en Égypte et une équipe pourra se déplacer d'ici la fin du mois en Égypte afin de réceptionner les transfos qui seront logés dans les cabines compactes. Il y a 7 cabines compactes au total qui seront installées. Il y a aussi un camion gris qui est aussi arrivé pour faciliter le déchargement, les bateaux et le chargement dans les véhicules. Et ces camions gris aussi va faciliter l'implantation des poteaux. Et quant à l'acheminement de ces matériels à Guado, on est en train de chercher des camions fiables pour acheminer ces matériels qui constituent un premier lot. Il y aura aussi un deuxième lot et pourquoi pas aussi un troisième lot de matériels qui seront acheminés à Guado. C'est la Banque mondiale qui finance les travaux à travers l'entreprise STS.
Parlons de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023-2024. La province éducationnelle Maniema en fait 14% des réussites cette année. C'est jeudi, le vice-gouverneur du Maniema a réuni différents acteurs éducatifs afin de discuter de ces résultats non satisfaisants et mettre en place des stratégies pour améliorer l'année prochaine. Katisamba Makubuli Corneille invite chacun à jouer correctement son rôle. Il est au micro de Florence Kizalunga.
L'objectif de cette rencontre, c'était seulement venir inciter les autorités scolaires, car à l'époque, lors des anciennes autorités scolaires, la province du Maniema, lors des résultats, on arrivait même à 70%. Mais aujourd'hui, avec des nouvelles autorités scolaires, le Maniema arrive maintenant à 14%. Nous sommes maintenant derniers de la RDC. Et cela, vraiment, n'en honore pas la province. Et pourtant, les parapes s'acquittent de leurs obligations. Maintenant, les trois piliers de l'enseignement, ici au Maniema, les autorités scolaires ne respectent pas. C'est pourquoi il y a échec catastrophique au Maniema. Nous sommes venus seulement échanger avec eux, voir comment nous pouvons chercher à améliorer l'année prochaine de son travail. Si vous êtes inspecteur, faites le suivi de l'enseignement auprès des enseignants. Si vous êtes provède, faites maintenant votre administration scolaire.
Cette autre nouvelle, à Kananga, les conseillers communaux sont outillés sur leur mission et leur rôle. La télé de 2 jours, organisée par les conseils régionaux des ONG non gouvernementales de développement, CONGD, s'est clôturée ce jeudi. À en croire le secrétaire exécutif provincial du CONGD, l'objectif est de les aider à améliorer la gestion au niveau des communes pour le développement de ces municipalités. Albert Kyungu, dans ses propos recueillis par François Kadima.
On attend les élections des bourgmestres, des conseillers urbains qui n'arrivent toujours pas en attendant les calendriers de la CENI. Comme ça que nous avons résolu ensemble qu'il est tout à fait indiqué de mettre à profit le renforcement des conseillers communaux. Le petit sondage a montré qu'il y avait déjà des couacs. Ils étaient presque à la croisée des chemins après leur installation, l'élaboration du rapport, leur règlement intérieur. Il y avait beaucoup de petits soucis. Donc nous avons pensé leur apporter une contribution en termes de renforcement sur leur mandat, leur mission, leurs rôles, leurs attributions et surtout leur faire comprendre de leur rôle qu'ils doivent jouer dans l'amélioration de la gouvernance dans les entités locales. Ils exercent efficacement leur mission de conseiller des communes, qu'ils arrivent à jouer un rôle positif, donc consentent que leur présence a contribué à améliorer la gestion de nos communes et non pas versé dans les conflits de compétences, dans les empiétements des attributions des uns vers les autres, et qu'ils comprennent au juste que la population attend de l'amélioration des services sociaux de base.
Actualité internationale.
L'ancien président de la Confédération africaine de football CAF, le Camerounais Issa Hayatou, est décédé ce jeudi 8 août à Paris à la veille de ses 78 ans. Au Kenya, la mobilisation antigouvernementale continue. Jeudi 8 août, des manifestants sont à nouveau descendus dans les rues pour protester contre la politique du président Ruto, un mouvement de contestation qui secoue le pays depuis la mi-juin. Hier, la mobilisation était plus faible qu'à ses débuts, mais 174 personnes ont été arrêtées à travers le pays, selon la police. À Nairobi, les quelques protestataires ont été vite dispersés par les forces de l'ordre, déployées en grand nombre. Les manifestants dénoncent des mesures d'intimidation.
L'invité.
Le bourgmestre de la commune de Barumbu, à Kinshasa, appelle ses administrés à s'impliquer dans la gestion de cette entité via les conseillers municipaux. Invité de Radio Kapi, Christophe Lomami demande également aux populations de sa municipalité de s'adonner aux travaux de salubrité pour rendre leur environnement sain et s'abstenir des maladies de mains sales. Il sollicite en outre plus de moyens de locomotion de la part des autorités urbaines pour résoudre la question de l'insécurité due au phénomène Kuluna dans la commune de Barumbu. Christophe Lomami s'entretient avec Blaise Nongala Mayanda.
Bonjour, monsieur Christophe Lomami Lankoy.
Bonjour, frère journaliste.
Pouvez-vous nous donner les bilans de votre gestion de près de 2 ans à la tête de la commune de Barumbu?
Je ne vous dirai pas à ce jour que le bilan est totalement positif. Mais il y a quelque chose qui est déjà fait. Vous pouvez vérifier quelques réalisations depuis que nous sommes là. Si je vous dis combien de caniveaux qu'on a tirés, vous allez vous étonner.
Monsieur le bourgmestre, ce n'est pas un secret. Vous pouvez le dire, combien de caniveaux déjà curés?
Et pas moins de 40. Malheureusement, si vous allez aujourd'hui pour visiter, vous allez faire le même constat que nous, si comme on n'a rien fait. Parce que nous, on cure, on évacue, et par après, c'est la même population qui va demain va commencer à crier qu'on ne fait rien. Vous allez trouver que tous ces caniveaux-là, c'est comme on n'a rien fait.
Il se pose un problème de suivi, monsieur le bourgmestre.
Oui, ça peut être aussi un problème de suivi, mais également un problème de conscience de la population. Parce que le suivi, ce n'est pas tout simplement à moi, le bourgmestre, ou bien à mes agents de faire le suivi. Tout celui qui habite Barumbu est dans ses droits de faire le suivi. S'il y a un problème d'inondation, comme nous venons de le connaître l'année passée, ça va tout simplement attaquer les bourgmestres ou bien les agents. Non, c'est toute la population. Tout ce que nous sommes en train de faire, il faut également l'implication de la population. Parce que dès que la population va prendre conscience, gérons ensemble, je suis sûr que tout ce que nous allons commencer à faire, il n'y aura pas des effets négatifs comme nous sommes en train de le connaître aujourd'hui.
Comme plusieurs communes de la capitale, Barumbu fait aussi face à l'insalubrité. Quelle est votre politique pour réguler ces secteurs?
Par rapport à cette question, lorsque vous avez des moyens, vous pouvez travailler et faire voir aux gens que j'ai déjà fait quelque chose. Comme les moyens ne suivent pas, ici je parle des moyens, soit financiers, qui peut aider ou accompagner la politique de chaque bourgmestre, soit dans sa commune. On est là, ni salaire, ni prime, ni rétrocession, nous allons travailler comment? Mais avec des petites taxes que nous gérons dans nos communes, nous nous organisons pour quand même faire quelque chose. Mais il faut qu'il y ait des moyens pour que nous essayons de faire quelque chose.
La population de votre municipalité continue de déplorer les phénomènes Kuluna. Alors, qu'est-ce qui voulait rapporter comme réponse?
Les phénomènes Kuluna, hier, je peux dire que c'était soit à un taux de 100% où on était à tout moment dérangé parce que nous avons 9 quartiers. Mais on peut vous appeler à la minute que dans 3 quartiers, il y a Kuluna. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je ne dis pas qu'on a réduit à 100%, non. On peut passer même 2 jours, ça qu'on nous appelle qu'il y a Kuluna. Mais ça continue. À cette question, nous demandons également à notre autorité, l'actuelle autorité de la ville de Kinshasa, monsieur le gouverneur Daniel Bumba, de mettre également les moyens à la disposition de la police. Parce que s'il n'y a pas la mobilité, ça pose toujours problème pour que les policiers puissent intervenir un peu rapidement quand il y a un dossier de Kuluna ou bien un autre dossier d'insécurité au niveau de nos communes.
Monsieur le bourgmestre, quelles sont vos perspectives d'avenir?
Au niveau de la commune de Barumbu, nous voulons que le travail, surtout d'assainissement, soit vraiment efficace. Nous voulons également que la présence des policiers pour dissuader la population et surtout les inciviques que nous appelons les Kuluna soit permanente au niveau de notre juridiction.
Monsieur le bourgmestre Christophe Lomamilankoy, Radio Kapi vous dit merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je profite à remercier la Radio Kapi parce que vous êtes suivi de partout en République démocratique du Congo.
Voilà, fidèles auditrices et auditeurs des Radio Kapi, c'est la fin de ce journal coordonné par Jude Mister Bilandang Kumar et mis en onde par Jean-Claude Nsia Lamwana Makengonswalu. Merci de l'avoir écouté.